La logique mathématique.
Critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 1er juin 1988.
Alors on va faire un cours un peu de critique particulier sur les transcendentaux. Pour reprendre un peu le problème de la dernière fois. Que signifie le terme même de transcendantal ? C'est par rapport aux catégories. Il transcende les catégories. Il transcende les modes particuliers de l'être. Les catégories sont des modes particuliers de l'être. Donc le mot transcendantal chez saint Thomas a une notion objective, à la différence de Kant. Le mot transcendantal chez Kant, les formes transcendantales, c'est subjectif, c'est un a priori. C'est l'a priori. Tandis que là, au contraire, c'est objectif. Et c'est par rapport aux catégories. Les catégories sont des modes particuliers de l'être. Et donc, il y a des notions, il y a des rationes qui sont au-delà des modes particuliers. Quand Aristote dit « l'être n'est pas dans un genre », la ratio intis transcende le genre. Transcender, au-dessus. Donc, en quoi y a-t-il transcendance ? Par rapport à quoi ? Là, je crois que c'est répondu. S'il y a une question, vous répondez tout de suite, hein, pour que on puisse avancer. Je crois que c'est suffisant de bien comprendre. Transcendant par rapport aux catégories, par rapport à l'objectivité des modes particuliers de l'être, donné dans les catégories. Oui.
Dans le De Veritate, question article 1, saint Thomas distingue donc un mode exprimé qui est un certain mode spécial de l'être, puis ensuite il dit des modes qui sont conséquents de tout ce qui est. Donc le premier, c'est les
catégories. C'est les catégories, second, c'est au-dessus. Donc c'est ce qui dépasse les modes particuliers. Oui. Et c'est toujours comme ça. Au fond, c'est toujours le double registre de pensée, l'aspect quantitatif. Et l'aspect ratio. C'est les deux modes particuliers de notre intelligence. Ratio, intellectus. C'est fondamental dans saint Thomas. Ratio, notre mode particulier de connaître. Intellectus, c'est ce qui nous apparente à tous les êtres intelligents. Tandis que ça, c'est propre à l'homme. Alors, ratio pris dans le mode du raisonnement. C'est par là qu'on prend l'abstraction. C'est cela qui fait comprendre que le mode particulier pour l'homme de connaître, c'est par les cinq prédicables. Donc, l'homme, la définition. La définition quantitative. Je connais d'abord comme ça, par genre et différence spécifique. Et les prédicaments, c'est ce mode particulier, premier. Je connais la qualité, je connais la quantité, je connais. Très proche du langage. Le langage est au niveau de la définition. Définie par genre et différence spécifique. La logique à ce niveau-là, universelle. Et les cinq prédicables, c'est les cinq modes de l'universel. L'intellectus essaie de comprendre beaucoup plus profondément la ratio. Là, je suis au niveau quantitatif. Et alors, ratio, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est raison. C'est la raison, source du raisonnement. Et le mot ratio ici, c'est juste l'inverse. Ça qui est terrible, hein, notre pauvre langage. C'est juste l'inverse. Quand je dis ratio intis, quand je dis ratio boni, je suis à un niveau d'intelligibilité qui n'est plus que méditatif, qui transcende les prédicaments, prédicables et prédicaments. Ça transcende cela, c'est au-delà. Et ça se fonde sur la ratio entis. Et ce sont les deux registres de ma connaissance. Évidemment, ce registre est fondamental. Il est propédeutique pour toute connaissance humaine. Que je sois mathématicien, physicien, science moderne, philosophe, ceci reste le même pour tous. C'est le langage. C'est exprimé par le langage habituel. C'est la définition. Le petit Larousse. Le petit Larousse est au niveau des 10 prédicaments. Il définit les classifications. L'ordinateur. L'ordinateur peut très bien manger tout ça. Tandis qu'il ne peut pas saisir ça. Hein? Là, on échappe. Puisque d'un côté, je touche le mode particulier, et l'autre, c'est la fin. Ma ratio, mon raisonnement, est en vue de ma connaissance. Intus legere. Connaître en profondeur. Lire de l'intérieur. Intus legere. Et la vérité qualifie l'intellectus et pas la raison. Donc, vous voyez, ça, c'est les deux registres. Eh bien, quand on parle transcendant, les transcendantaux sont au registre au-delà des prédicaments, au-delà des prédicables. Puisque le genre n'est pas un, puisque l'être n'est pas dans un genre, le bien n'est pas dans un genre. Ce sont les notions proprement analogiques. Tout le monde comprend. Oui, dites. L'abstraction universelle est au niveau de l'appréhension. L'abstraction générique, universelle, c'est l'appréhension. D'où les cinq prédicables. Là, vous voyez, il n'y a jamais une abstraction universelle purement univoque, puisqu'il y a cinq prédicables. Ça qui est particulier. Il y a cinq modes universels. L'abstraction formelle implique toujours le jugement. Ce sont les niveaux d'abstraction. J'abstrais différemment en mathématiques. J'abstrais différemment en philosophie. J'abstrais différemment en physique. J'abstrais différemment en médecine. J'abstrais différemment en biologie. Abstraction formelle. Ou en droit. Ou en économie. C'est encore un type d'abstraction particulier. Toutes les sciences ont une certaine abstraction. Dont je suis conscient. Je ne suis pas conscient de l'abstraction universelle. Je le fais instinctivement. Vous vous rappelez pas, c'était toujours la question que je posais à mes psychanalystes freudiens. Est-ce que vous êtes capable, avec votre méthode psychanalytique, de dire quel est le premier moment de l'abstraction universelle? Je savais que je leur posais une colle qui leur montrait qu'ils n'étaient pas capables de creuser l'intelligence. Ils pouvaient préciser le premier nœud. Et pas le premier moment de la vie de l'intelligence. Quand avez-vous connu le premier moment de l'abstraction universelle? quand le gosse est passé de papa à homme. C'est un moment très grave. Papa, c'est tous les hommes. Puis un jour, il a dit homme et papa. C'est pas très bien, c'est perdu dans la nuée. Tandis que l'abstraction formelle, je le sais. Je sais quand je passe de la définition quantitative à la ratio entis. L'être ne se définit pas. Le bien ne se définit pas. Le vrai ne se définit pas. La définition est au niveau quantitatif. Bon. Saint Albert et Saint Thomas nous donnent les cinq transcendentaux. Non, Saint Albert en donne quatre, Saint Thomas cinq, historiquement. Et Saint Albert nous donne deux transcendentaux qui viennent des philosophes, res unum, et deux qui viennent de la tradition des saints, Saint Augustin, bonum verum. Très intéressant, ça. Saint Thomas, lui, nous donne les cinq. Il ne nous dit plus les transcendentaux des philosophes et les transcendentaux des saints. Alors, d'où les tire-t-il, donc Albert le Grand, de la tradition? Saint Thomas, de sa réflexion propre. C'est Saint Thomas qui a donné les cinq. Et c'est propre à Saint Thomas. Donc je dis, de sa réflexion propre. En quoi la tradition des saints fait-elle foi ou autorité en philosophie? Oui, je suis d'accord. Albert le Grand n'a pas été assez loin. Pour Albert le Grand, il y a encore une philosophie chrétienne. Pour Saint Thomas, non. Pour Albert le Grand, il y a une philosophie chrétienne, puisque les transcendentaux virum et bonum viennent des saints. Vous voyez? Donc, pour Albert le Grand, ça repose sur l'autorité, la tradition. C'est pas philosophique. Pour Saint Thomas, non. C'est une réflexion critique. Alors, grosse question. Sur quoi repose cette réflexion critique? Ah, je suis tout à fait d'accord. Sur quoi repose cette réflexion critique? Eh bien, ça a été pour moi une grave question. Parce que personne ne s'est posé la question, du moins, il me semble. Je ne l'ai jamais vu poser. Alors c'est bien de la poser, vous voyez. C'était la grosse question. Sur quoi se fonde cette réflexion critique? Autrement dit, toute ratio, tout jugement qui porte sur les principes propres implique une appréhension. Lorsque j'en fais la critique, quand je critique un jugement qui porte sur un jugement propre, je peux saisir l'appréhension, je peux saisir alors la ratio. Je peux saisir la ratio boni. La ratio boni, je la saisis à travers un jugement propre qui porte sur un principe propre. Ça, première réflexion qu'il faut comprendre. Ces rationes ne tombent pas du ciel. Ce ne sont pas des idées innées. Oui, Rosmini dit que le concept d'être est inné. Je dis non. Le concept d'être n'est pas inné, mais progressivement, on l'acquiert. Progressivement, on acquiert la ratio entis. Et quand vous avez le concept d'être, il se fonde sur la ratio entis. Mais comment découvrir ces ratio entis qui relèvent d'une appréhension? je le saisis à travers les jugements qui saisissent ses principes propres. Donc, si les transcendentaux me donnent les cinq rationes fondamentales, immédiatement convertibles avec la ratio entis, nécessairement, ces cinq rationes se fondent sur les cinq principes propres de l'être. Pas autrement. Voyez bien. Toute ratio présuppose un jugement. Toute ratio qui saisissent les rationes convertibles avec l'être ne peuvent provenir que d'un jugement qui saisit les principes propres. Or, quels sont les principes propres de l'être ? En métaphysique, il y en a deux. Il n'y a pas cinq, il y en a deux. Un, la substance, principe. Je suis en critique, hein, je raisonne en critique. Principe propre selon la forme. Et puis, l'être en acte. Principe propre selon la fin. Bien, pas d'autre. Mais l'être en acte implique cinq modalités. Là, j'explicite la pensée d'Aristote. Cinq modalités. L'essai, bonum, le bien, le vrai, l'opération vitale, le mouvement. Il y a cinq modalités de l'être en acte. L'essai, c'est au niveau de la substance, ou au niveau de l'essence. Le bien et le vrai, c'est au niveau de l'esprit. L'opération vitale, c'est au niveau de la vie. Et le mouvement, c'est au niveau du corps physique. Donc cinq modalités. Je n'explique pas ici, c'est toute la métaphysique de l'acte. Ces cinq modalités me donnent cinq fois le principe de finalité. L'avons vu. Parce que le principe, l'être en acte, me dit tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Donc un principe propre métaphysique. Le principe de finalité, c'est plus la substance. Ce principe de finalité va impliquer cinq modalités. Alors maintenant, je vais tout simplement essayer de comprendre comment je peux, à partir de là, saisir les fondements des cinq transcendentaux, puisque nécessairement, les cinq rationes convertibles avec l'être reposent sur des principes propres. Mais c'est pas si commode que ça de voir le fondement des transcendentaux. Si je quitte l'autorité, si je quitte les autorités, si je quitte les autorités, c'est très simple. Aristote, Avicenne, Augustin. Trois autorités. Aristote, Onum, Avicenne, Res. C'est vrai, historiquement, ça vient d'Aristote, d'Avicenne. Qui? Qui? Un. Aussi, oui, mais c'est Aristote qui l'a dit avant Avicenne. Venez. Tandis que Res, c'est Avicenne. Bonum et Verum, c'est Augustin. Aliquid, saint Thomas l'ajoute. Alors nous allons comprendre. C'est la clé. Toujours, oui, c'est comme les cinq beaux existences de Dieu, c'est la troisième qui est la clé. Aliquid, c'est la clé. Alors, principe propre à la substance. Res. Saint Thomas dit, c'est l'essence. fonde la substance. Quand je saisis le principe selon la forme de ce qui est, c'est-à-dire quand je saisis la substance, je saisis la ratio entis au niveau de res. L'être en acte, dans toute sa pureté, dans toute sa pureté, je crois que c'est aliquide. Bon, SC, substance, ça se ramène à RES, donc rien de plus. Bonum et verum, ah. Les opérations vitales, non. Mouvement, non, c'est pas transcendantal. C'est des modalités de la vie, c'est pas directement l'être. Et puis qu'est-ce qu'il y a en plus? La recherche de l'un comme propriété de ce qui est. L'un acolyte de l'être. Quand je saisis un acolyte de l'être, je saisis un comme s'identifiant à l'être. Donc, j'ai le transcendantal au nom. Vous voyez comment la métaphysique me donne les cinq fondements des transcendentaux. Eh bien, c'est toute la métaphysique qui est en cause. Hein. Il y a une réflexion critique. Tant que vous n'avez pas découvert ça, vous acceptez les transcendentaux par mode d'autorité. Ce n'est pas philosophique. Donc vous ne les connaissez pas. Si vous comprenez ça, et que vous voyez que les transcendentaux se fondent sur des jugements propres, et que vous voyez que les cinq jugements propres, c'est quand même très extraordinaire. Hein. Quand j'ai découvert ça, j'ai eu une joie philosophique merveilleuse, parce que c'est la clé. Alors on saisit tout, on dit oui. C'est la confirmation que saint Thomas a pigé ça. On n'aurait pas donné les cinq transcendentaux. Vous ne pouvez pas donner les transcendentaux sans avoir compris. Donc, res, la substance, aliquid, l'être en acte, bonum, verum, et puis un. C'est extraordinaire, ça. Cherchez, vous n'en trouverez pas. Vous pourriez vous poser la question, ah, mais au-delà de l'un, il y a tout le problème de la personne. Après là, on voit la personne. Est-ce que la personne ne donne pas un nouveau principe? Non. La personne, ce n'est pas un nouveau jugement. C'est une manière d'exister. C'est un pause. Il n'y a pas de rationnel nouvelle. Oui. Non. Il y a une conclusion scientifique. Donc, il y a du nécessaire. Et donc, il y a une appréhension nouvelle de l'être commun. Vous voyez, ça je dis, jugement propre, on devrait dire, oui, jugement, principe propre ou conclusion propre, nécessaire. Ça revient au même. Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où proviennent le verum et le bonum?
Le verum et le bonum provient du fait même que il y a par rapport à l'intelligence. Par rapport à l'intelligence, il y a une saisie particulière de l'acte. L'intelligence, vous voyez, ça c'est des veritates de saint Thomas. Hein, j'en donne la source. Mais je dois le redécouvrir indépendamment de saint Thomas. Et la découverte du bonum et du verum, c'est de comprendre que l'esprit, c'est l'intelligence. L'intelligence et l'être sont adéquats. Si l'intelligence et l'être sont adéquats, l'acte de l'intelligence spéculative, c'est le vrai, la vérité. Et l'intelligence pratique, affective, saisit le bien. Donc les deux grandes orientations d'intelligence. spéculative et pratique. Oui.
Mais là, c'est pas, comme l'explique saint Thomas, que c'est l'intelligence liée à la relation de raison.
Oui, ça revient au même, c'est après, il explicite, vous allez plus loin. Ici, je cherche d'abord quel est le fondement de ces rationes. Après, je vais essayer de comprendre comment ces diverses rationes sont convertibles avec l'être, mais impliquent toutes une modalité propre. Et cette modalité propre, je l'explicite par la relation. Oui ?
Mais pour arriver à l'alignement, on doit passer par la relation de raison.
Non. Pas du tout.
Elle n'implique pas nécessaire parce que...
Non. C'est pour expliquer au plan critique comment Aliquid se distingue des autres. C'est au plan critique. Ici, je prends le fondement métaphysique. Vous voyez ? Dans le fondement métaphysique, l'être en acte est principe selon la fin de ce qui est. Et donc, quand je saisis ce principe, je saisis dans l'ordre de ce qui est une nouvelle ratio. Et je dis cette ratio actus, saint Thomas le traduit à liquide.
Elle dépasse la ratio intis. Elle n'est pas convertible à la ratio intis que grâce à la relation.
Ah oui, mais c'est ce que je dis. Mais ça, c'est la critique qui fait ça. C'est pas la métaphysique. Oui. Ici, je cherche. Je suis parti de ça, hein. Sois attention, le raisonnement que je prends. Je suis parti des cinq transcendentaux de saint Thomas, puisqu'on essaie de comprendre. Et je dis, ces cinq transcendentaux, c'est la question posée, qui est astucieuse. Ces cinq transcendentaux reposent-ils sur l'autorité ou sont-elles philosophiques? Oui. Bon, je dis, jusque pratiquement, dans la scolastique, c'était toujours l'autorité de saint Thomas. Ça ne nous suffit pas au point de vue philosophique. Au point de vue théologique, ça peut suffire. Mais pas au plan de vue philosophique. Je ne peux pas employer les cinq transcendentaux en philosophie tant que je n'ai pas saisi le fondement philosophique de ces cinq transcendentaux. Oui. Donc ce que je cherche ici, c'est le fondement philosophique de ces cinq transcendentaux. Et je dis que ces cinq transcendentaux ne peuvent reposer que sur la métaphysique. Et sur des jugements propres du métaphysicien. Or, je vois qu'il y a cinq jugements propres de la métaphysique. La substance, l'acte, bonum, verum, onum. Là, je saisis comme des jugements propres. Et là, je peux les comprendre directement en fonction de la structure de la métaphysique comme science, indépendamment de l'autorité. Et je vois que ces cinq transcendentaux reposent directement sur ces jugements propres. Au niveau de l'appréhension. Ensuite, je vais essayer au point de vue critique de comprendre qu'est-ce que c'est que cette convertibilité. Vous voyez ? C'est le second problème, ça. Vous anticipez. Tandis que là, j'essaie de comprendre le fondement pour montrer que les cinq transcendentaux que j'affirme, je ne les affirme pas en fonction de l'autorité de saint Thomas, mais je les affirme en fonction de ma métaphysique. Et il me semble que dans la scolastique, on n'a jamais fait ce point de vue-là. Saint Thomas n'avait pas à le faire. Il a trouvé, il donne, c'est tout. Saint Thomas croit qu'on est très très intelligent, on se dit tout de suite ça. C'est évident que les saints transcendentaux, c'est une évidence. Ça repose sur la métaphysique. Oui, mais où il y a un coup de grâce étonnant, c'est possible. Où saint Thomas saisit ça. C'est impossible autrement. Tu te rends compte tel que... Puis ce qui est merveilleux, c'est que saint Thomas n'éprouve plus du tout le besoin de ce que fait Albert le Grand. Les philosophes, les saints, ils transcendent. C'est génial. Vous voyez, quand Gilson cherche à voir ce qu'il y a d'original chez saint Thomas, par rapport à Aristote, il aurait dû commencer par les transcendentaux. Parce que ça, c'est tout à fait génial. Il n'y a que saint Thomas qui l'a donné. Et là, vous avez une originalité de saint Thomas. Alors, qui est une originalité critique et non pas métaphysique. Oui, l'utilisation de la métaphysique en théologie me permet d'avoir un regard critique beaucoup plus pénétrant. Et là, on pourrait presque dire que c'est une critique chrétienne. Oui. Mais ça ne va pas tirer une critique chrétienne, ce n'est pas la peine. Mais c'est le tremplin. La théologie sert de tremplin. Pour ensuite, voyez ça, une critique repose sur les métaphysiques. Bon.
Vous pouvez me reprendre la façon dont on découvre l'un, sur quoi il se fonde
que... L'un, évidemment, vous n'avez pas encore vu toute la métaphysique. L'un est une propriété de ce qui est. De l'être en tant qu'être. Donc, si c'est une propriété, c'est la conclusion métaphysique de la métaphysique en tant que science. Tout ce qui est en tant qu'il est un. Tout ce qui est en tant qu'il est un. Parce que tout ce qui est en tant qu'il est substance, donc indivisible. Tout ce qui est en tant qu'il est acte, donc indivisible. Vous voyez ? Et si c'est indivisible, si c'est donc une propriété, c'est donc identique à ce qui est. Si c'est identique à ce qui est, c'est donc convertible avec l'être. Je peux donc dire que la ratio unius, la raison d'un, est convertible avec l'être.
Cette convertibilité marche toujours dans les deux sens,
dans les deux sens, c'est-à-dire. Oui, non, je ne dis pas que la raison intis est convertible. C'est l'inférieur qui est convertible avec le supérieur. Donc, ça ne va que dans un sens. Tout est convertible dans l'être. La convertibilité se fait par rapport à l'être. Pourquoi ? Parce que, au plan, toujours au plan critique, c'est ce qui montre bien que la DNT, c'est que De Veritate Question 1, article 1, est au niveau critique. Parce qu'au plan critique, on ramène tout à l'intelligibilité première. Quelle est l'intelligibilité première ? C'est l'être. Le bien est intelligible parce qu'il est convertible avec l'être. C'est l'être primo cadit in intellectus, ens. C'est toujours ça. C'est parce que l'être est le premier que l'intelligence connaît que les autres sont convertibles avec l'être. C'est-à-dire en même extension et même compréhension. C'est ça la convertibilité. Ça, il faut y réfléchir beaucoup. Hein. Parce que je vous donne le fruit d'une réflexion longue. Mais c'est très beau, ça. Regardez. Ça donne une force à toute la structure métaphysique. Étonnante. Oui, parce que les ratios, c'est le contenu intelligible que vous saisissez, que vous assimilez. Vous voyez ? Comme l'acuité. C'est une supercuité. Une cuité au-delà de l'acuité. Mais c'est toujours saisi per modum cuitatis. Puisque c'est saisi par mode d'appréhension. C'est l'intelligibilité radicale de ce qui est. Et c'est bien le fondement de tout. toute ma connaissance. Vous voyez ? Et c'est là où la critique prend sa signification ultime et dernière, parce qu'elle saisit quelque chose qui est au-delà du mode quantitatif. La ratio entis. Oui ?
Pouvons-nous distinguer entre la res et le un ? Que la res est la notion d'être prise pour elle-même affirmativement, et le un, c'est la notion d'être ajoutée à la négation ?
L'indivisibilité. Res dit détermination. Tout être en tant qu'être est déterminé. C'est sans res. C'est que Saint Homme est parallèle avec essence. Tout être en tant qu'être est déterminé. Oui. Ratio rei. Tout être en tant qu'être est un. Indivisible. N'est pas divisé. Oui, c'est là où intervient notre raison, la division. Tout être en tant qu'être est bon. Appétible. Il peut susciter en moi un amour. Tout être en tant qu'être est vrai. Tout être en tant qu'être est indivisible en lui-même et divisé des autres. Allez, quid. L'acte sépare. Dans la mesure où vous êtes en acte, vous êtes séparé des autres. Pas de danger de confusion. Tandis que quand tout ce qui est en vous est en puissance, ça fait le petit mélange. Ça fait les confusions. Oui, c'est ça, liquide. Liquide relève de l'acte. De l'acte métaphysique. L'acte sépare. Segregatus ut imperet. Faut être séparé en acte pour pouvoir commander. Si vous n'êtes pas en acte, vous ne pouvez pas commander. Oui ? Le vrai et l'un et le bien, c'est le point de vue de la relation par rapport à l'intelligence. C'est-à-dire un être pensant. L'être pensant a quelque chose de tout à fait particulier. Ce n'est pas la substance pensante de Descartes, c'est l'être pensant. C'est adéquat à l'être, l'intelligence. Pas une dégradation. Alors, la qualité propre de l'intelligence, c'est le vrai. Et la qualité propre, ou plus exactement, ce qui finalise l'intelligence pratique, affective, c'est le bien. Et ce qui est propriété de l'être comme tel, c'est l'un. Oui. Il y a des modes particuliers, hein. C'est forcé. Je ne suis pas uniquement être, être, être. Il y a 5 modalités au niveau de l'être. Et donc l'intelligence est comprise dedans. Parce que l'intelligence est au même niveau d'intelligibilité que l'être. Mais la différence, c'est que l'être m'est donné d'une manière objective et immédiate, tandis que l'intelligence ne m'est pas donné d'une manière immédiate. Je saisis l'être dans un jugement d'existence, tandis que vous ne saisissez pas votre intelligence dans un jugement d'existence. Mais vous le saisissez quand vous dites « je suis ». Au niveau personne. Attendez, je prends vite. La conversivité est-elle une définition des transcendentaux ? c'est le caractère, propriété. Il n'y a pas de définition. C'est la propriété des transcendentaux comme rationnels. Parce que vous aurez la raison de parfait. Est-ce que la raison de parfait, la raison de beau, est-elle un transcendantal? Non. Parce qu'elle n'est pas immédiatement convertible avec l'être. Je dirais leur propriété, oui. Autrement dit, lorsqu'on cherche à savoir ce qu'est un transcendantal, recherche-t-on une ratio convertible avec celle de l'être? Oui. Ceux qui ont le temps, j'ai fait toute l'étude, et c'est dans le second livre sur l'activité artistique par rapport au beau. J'ai essayé de montrer que la ratio pulcri, la raison de beau, n'est pas une raison transcendantale. Et là, j'en fais tout le développement. Donc, c'est vraiment, on cherche à savoir ce qu'est un transcendantal, on recherche une ratio convertible avec celle de l'être. C'est la propriété. Ou bien, découvre-t-on à partir du transcendantal que sa ratio est convertible? Non, c'est l'inverse. La propriété pour nous est plus convertible. Voyez. Alors enfin, la ratio d'un transcendantal est-elle identique à son intelligibilité? Est-ce la même chose de parler de l'un ou de l'autre? Alors ça, c'est très délicat. La ratio transcendantale, la ratio entis n'est quand même pas identique à son intelligibilité. Mais en tant que raison, oui, puisque c'est ce que j'ai saisi. Mais comme la ratio est saisie dans le jugement, non. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis au niveau des rationes, je suis au niveau de l'appréhension. Donc je suis au niveau de l'assimilation. Au niveau de l'assimilation, la ratio et l'intelligible et l'intelligé est identique. Comment je pourrais pas en parler? Mais comme l'appréhension est toujours saisie dans un jugement, et que le jugement saisit autre chose que l'intelligibilité, puisque le jugement se termine à l'existant. L'intelligibilité des transcendantaux n'est pas identique à leur ratio au niveau du jugement. Il faut bien sauvegarder le primat de l'exister par rapport à l'intelligibilité. Mais au niveau de l'appréhension, oui. Et comme l'appréhension n'est jamais séparable du jugement, je peux dire que je corrige tout de suite qu'il y a dans la ratio quelque chose de plus profond que ce que j'intellige de la ratio. C'est pour ça que je peux tout le temps y réfléchir. C'est pour ça que la saisie que j'ai des transcendantaux maintenant est plus profonde que celle que j'avais il y a 10 ans. Heureusement. Et celle que vous avez maintenant va pouvoir aller toujours plus loin. Je peux jamais dire que j'arrête ma recherche métaphysique, puisque je sais que la réalité est plus que ce que j'intellige de la réalité. Il n'y a que la science infuse du Christ qui pouvait être adéquate à l'intelligibilité de la réalité. Et il n'y a que ce que nous saisirons dans la vision béatifique du réel qui sera exhaustif à la réalité. À ce moment-là, vous pouvez vous arrêter. Vous aurez le repos de l'intelligence en Dieu, mais seulement en Dieu et en voyant l'essence de Dieu, pas autrement. Dire qu'une métaphysique s'arrête, c'est un non-sens. Toujours en recherche. Oui.
Est-ce que c'est à cause que le jugement est toujours
un au-delà de l'appréhension?
Non, mais actuel, donc, il n'y a jamais un appui, il y a toujours un
actuel. Parce que le jugement philosophique ne peut pas se séparer du jugement d'existence. Oui, le jugement d'existence est toujours en acte. Or, le jugement d'existence fait que la réalité est mesure de mon intelligence. Et donc, il y a dans la réalité quelque chose de plus que ce que je comprends de la réalité, grâce à Dieu. Qu'elle est au niveau de ma connaissance par mode des prédicables. C'est-à-dire qu'elle a un niveau inférieur d'intelligibilité. Elle implique une connaturalité avec ma connaissance. Tandis que la ratio essaie de saisir quelque chose de beaucoup plus profond qui est au niveau de l'être. Les prédicaments nous disent ne regarde pas directement ce qui est, mais les modalités particulières de ce qui est.